cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger. Moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager.
Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez vous.
Salut les amis, c'est avec cette citation de François Mauriac que s'ouvre cette spéciale réunification des deux Allemagnes, symbolisée par la chute du mur de Berlin, mur érigé en 61 par le bloc soviétique, et que vous entendez ici tomber sous les joyeux coups de masse de ce 9 novembre 1989. Alors évidemment, hein, les murs, c'est très vilain et c'est très mal, car nous aimons tous la liberté et la démocratie. Mais la chute du mur de Berlin n'est pas exactement le début du conte de fées qu'on nous rabâche depuis plus de 30 ans. En 90, on a parlé de réunification de l'Allemagne. Mais on pourrait tout aussi bien dire annexion, Anschluss ou colonisation de l'Allemagne de l'Est, du bloc communiste, par l'Allemagne de l'Ouest, dirigée par une oligarchie capitaliste et impérialiste, constante dominatrice de l'histoire allemande, du pan-germanisme du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Troisième Reich. Colonisation qui a coûté très cher, pas seulement aux Allemands de l'Est, qui se sont fait dépouiller et humilier. Mais une annexion qui a aussi coûté et qui continue à coûter très cher à toute l'Europe. 1 million de chômeurs en France. Et puis voyez donc la Grèce d'aujourd'hui, sacrifiée, dépecée, piétinée au profit de l'oligarchie capitaliste allemande, à laquelle les capitalistes français restent soumis. Ça aussi, c'est une constante historique. Les médias collabos d'ici nous racontent toujours une vertueuse Allemagne sans dette. C'est faux. À commencer par le fait que l'Allemagne n'a jamais payé ses dettes de guerre, ni ses dettes de la Première Guerre mondiale, ni celles de la Seconde. C'est donc l'Allemagne qui doit du fric à la Grèce, et à toute l'Europe d'ailleurs. Et pas le contraire, mais ça faut évidemment pas le dire, hein. Interdit de critiquer le gros Deutschland, on n'osera quand même pas dire 4e Reich, dont nous allons ici vous rappeler l'histoire avec les copains profs d'histoire géo réunis autour d'un dossier du Monde diplomatique de novembre 2019. 30 ans après la chute du mur. Salut Cédric.
Salut.
Salut Daniel.
Bonjour à tous.
Salut Philippe.
Bonjour.
Salut André.
Salut. Salut à nos auditeurs.
Il aura fallu 28 ans pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible. Une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les Berlinois sont venus nombreux. Ils sont venus voir pour y croire.
Bei dem heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse.
Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich.
Dorénavant, les demandes d'autorisation pour les voyages privés à l'étranger peuvent être demandées sans justificatif préalable et seront accordées rapidement. Dès maintenant. Le passage de tous les postes frontières entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sera possible.
Tsunami musical mondial, la house music déferle sur la planète depuis la moitié des années 80. Sorti en 87, Pump Up the Volume fait partie de la bande-son de la chute du mur de Berlin 2 ans plus tard, en 89.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
André, on démarre avec toi, survol historique.
Oui, l'histoire de l'Allemagne, celle que je vais vous raconter, est intimement liée à la naissance et au développement de la guerre froide. Mais je vais essayer de vous faire une sorte de chronologie un peu simplifiée. Nous allons partir de la guerre. Pendant la guerre, les États-Unis et l'URSS et la Grande-Bretagne sont alliés contre le régime nazi et ses alliés. Bulgarie, Hongrie, etc. sont des pays soit dominés par l'Allemagne, soit complices alliés de l'Allemagne. Donc c'est toute l'Europe centrale qui fait la guerre. Je vais prendre les événements un petit peu avant le 8 mai, c'est-à-dire la capitulation allemande. Le 12 avril 1945, Roosevelt meurt. La mort de Roosevelt et son remplacement par son vice-président Harry Truman est le signal d'un renversement de la diplomatie américaine. Parce que Roosevelt n'était pas un complice des communistes, hein. C'est un grand bourgeois capitaliste. Mais sa politique extérieure, c'est les rapports diplomatiques normaux avec l'URSS. Et d'ailleurs, au départ, hein, le projet de l'ONU, c'est un condominium États-Unis-URSS qu'il propose. Ensuite, après, on va élargir aux autres grandes puissances. Mais au départ, Roosevelt ne voit pas d'inconvénient à faire une sorte de condominium États-Unis-URSS. Donc, il est pour l'Alliance. Mais quand il meurt, c'est Truman qui lui succède. Et Truman est un anticommuniste viscéral, maladif. Et il y a eu toute une campagne des grandes entreprises américaines pour, après la guerre, continuer le conflit, en quelque sorte, et c'est-à-dire prolonger le conflit contre l'URSS. L'origine de la guerre froide se trouve déjà avant même la capitulation allemande. Le futur ennemi, ça va être l'URSS.
Before America's Congress, President Truman makes the most momentous speech since the death of Franklin Roosevelt. He declares political war on Soviet Russia.
Quoi que vous disent encore les propagandes d'aujourd'hui, je pense notamment aux conneries à la Apocalypse, où on vous dit « Ah, dès 45, le vilain Staline et les abominables communistes veulent conquérir le monde !» En 45, de toute façon, l'URSS, elle est exsangue. Elle n'a qu'une envie, c'est se reconstruire parce qu'elle est complètement lessivée, détruite, laminée. Quand bien même ils auraient eu envie de conquérir le monde, les Russes en étaient logistiquement bien incapables. C'est les États-Unis qui la déclenchent, cette guerre froide.
Absolument, non, mais on n'a pas arrêté de dire des conneries là-dessus. Le 8 mai 1945, c'est la capitulation de l'armée allemande devant l'armée soviétique, américaine, française, etc. Quoique le général de Gaulle était un petit peu laissé à l'écart, mais enfin bon. Bref, c'est la capitulation. L'Allemagne est vaincue à ce moment-là. Elle est occupée en partie par l'armée américaine, anglaise, française et par l'armée soviétique. La future République fédérale d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest, ce sont les zones américaines, françaises et anglaises. Et la future RDA, c'est la zone d'occupation soviétique. Il se trouve que Berlin est dans cette zone d'occupation soviétique. C'est-à-dire que la capitale du Reich a été conquise par l'armée rouge, et à quel prix, À la limite, rien n'oblige les soviétiques à céder un petit morceau de la capitale du Reich à leurs alliés américains, français, britanniques. Rien que ça, ça nous démontre que, non pas l'innocence de Staline ou de l'URSS, mais au moins que c'est pas eux qui ont commencé. Parce que sinon, ils n'auraient jamais accordé aux Occidentaux cette enclave en plein dans leur zone d'occupation. Et d'ailleurs, les Soviétiques démobilisent dès la capitulation allemande. Ils commencent à démobiliser des centaines de milliers de soldats parce qu'ils ont besoin de produire, parce que le pays est en ruine, il est exsangue. Il y a eu 26 millions de morts, mais il y a eu aussi des destructions de bâtiments civils, de gares, de chemins de fer, tout a été massacré. Les Allemands ont tout massacré dans les territoires immenses qu'ils ont occupés pendant cette guerre. Au même moment d'ailleurs, les Américains cessent toute aide aux Soviétiques. Truman coupe l'aide, plus de crédit et plus d'aide. Le 8 mai 1945.
Philippe, dans les 15 derniers jours de la bataille de Berlin, les Allemands ont tué 80 000 soldats soviétiques. C'est à mettre en rapport avec les 418 000 morts que les Américains ont eus sur les deux fronts en 4 ans de guerre.
Pour un GI tombé, il y a 60 soviétiques qui sont tombés. 27 millions de victimes soviétiques.
Oui. Raisonnablement, 26 millions de morts civils et militaires. Parce qu'il y a eu des massacres aussi, des massacres systématiques. Il n'y a pas que les Juifs qui ont été massacrés dans les territoires occupés par l'armée allemande. Les consignes qui étaient données à la Wehrmacht, pas seulement aux SS, à la Wehrmacht, c'était de liquider tous les commissaires politiques et les Juifs dans les régions occupées. Judéo-bolchevisme, juifs et communistes étaient volontairement confondus. Bon, que va-t-on faire de cette Allemagne qui est occupée par les armées alliées? Le 17 juillet s'ouvre dans la banlieue de Berlin, à Potsdam, une conférence entre donc les Soviétiques, les Américains, les Anglais, les Français. Et que va-t-on faire non seulement de l'Allemagne, mais aussi de ses satellites? On décide à propos de l'Allemagne, je cite, « désarmement complet et démilitarisation de l'Allemagne entière, destruction du parti nazi, abolition des lois nazies, jugement des criminels de guerre, épuration des membres du parti nazi, décentralisation et démocratisation de l'Allemagne. Et dans l'immédiat, non-reconstitution d'un gouvernement central. » Donc pour l'instant, ils décident de garder l'Allemagne démembrée, gouvernée par une administration militaire et civile américaine, anglaise, française, soviétique, qui se retrouve de façon à régler les problèmes de réfugiés, parce que des villes sont en ruine, et puis également des problèmes d'alimentation, enfin de tout, quoi, des problèmes... Voilà. Et ensuite, ils se séparent, mais en fait, on voit que déjà, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a, comme disent certains historiens, une sorte de contentieux qui s'est alourdi depuis la mort de Roosevelt. En fait, il y a un changement, les Américains ont des exigences. Ces exigences existaient avant la mort de Roosevelt, par exemple, à propos de la Pologne. Le premier sujet de contentieux entre l'URSS et les Américains, c'est que va-t-on faire de la Pologne? Les Soviétiques, pas de pitié. La Pologne ne sera plus jamais un pays fasciste anti-soviétique. Parce qu'ils en ont assez souffert. Hein, n'oubliez pas quand même que le régime, celui de la Pologne qui a été écrasé par l'Allemagne nazie, a été quand même aussi un régime fasciste d'extrême droite, hein, antisémite, etc., etc. Enfin bon, certes, les Polonais ont beaucoup souffert de l'occupation allemande, mais enfin, ils ont été un des problèmes qui ont servi de prétexte à ce qu'il n'y ait pas d'alliance entre Français, Anglais et Soviétiques. Bref.
Et toujours bien de rappeler que au 11 novembre 1918, la guerre se continue à l'Est et que les Polonais vont bouffer d'immenses territoires aux Russes. Non, mais tout ça pour dire que le méchant Staline, il a mis la main sur la Pologne, les Russes n'ont fait que récupérer.
Pour les Soviétiques, on voit déjà les prémices avec la Pologne de ce que les Soviétiques feront en Europe centrale, c'est-à-dire neutraliser ces pays et les empêcher d'être des marchepieds, des antichambres de l'invasion de l'URSS. Ces gens, les Soviétiques, indépendamment de ce qu'on pense du régime, etc., sont traumatisés par cette guerre, par l'invasion des Allemands et de leurs alliés, qui ont fait quand même 20, 25, 26 millions de morts. C'est un événement traumatique. Les Soviétiques ont morflé. Dès que les États-Unis ont été en guerre, ils ont demandé aux Anglais et aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, d'ouvrir un second front à l'Ouest pour les soulager. Bon, ça a été un dialogue de sourds, jusqu'à ce que Américains et Anglais s'aperçoivent que les Soviétiques arrivent à la Pologne et envahissent la Pologne. Alors là, le 6 juin 1944, déjà, les Soviétiques sont à la contre-offensive générale sur tous les fronts. Ils vont manger la Pologne et les pays de l'Est avant d'arriver en Allemagne. Il faut absolument empêcher que l'Union soviétique, l'armée rouge, arrive jusqu'au Rhin, jusqu'à la France, c'est-à-dire libère la totalité de l'Europe occupée par les nazis. Et donc, ils vont se dépêcher de faire un débarquement le 6 juin 1944. Là, il s'agit, cette fois-ci, de reconquérir le plus vite possible des territoires, de façon à pousser la limite entre URSS. On voit déjà se poindre le conflit qui va arriver. Mais il n'y avait pas de fatalité à ce que le conflit qui a eu lieu entre puissance occidentale et URSS et contre l'axe Berlin-Tokyo-Rome, que cette alliance disparaisse. C'est la thèse d'un historien américain que je vous conseille de lire. C'est un petit livre qui s'appelle « La paix saccagée » d'un certain Daniel Yergin qui démontre le retournement diplomatique de la diplomatie américaine à cette époque-là. août 1945, bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki. C'est un avertissement. Les Américains n'ont pas réussi à faire prévaloir pour l'instant leur vue sur l'Allemagne et avertissent les Soviétiques. À ce moment-là, le rapport militaire entre Union soviétique et États-Unis donne une supériorité écrasante aux États-Unis. Les États-Unis ont un potentiel, il ne faut pas compter en nombre de soldats et en nombre de chars. Il faut la puissance réelle hein, d'une armée qui est une puissance aussi aérienne, puissance de frappe, etc. Les États-Unis sont capables d'écraser l'Union soviétique à cette époque-là. Ce qui expliquera pourquoi l'URSS va reculer dans l'affaire de Berlin, par exemple, en 1948.
Pour protester contre l'introduction par les Occidentaux d'une nouvelle monnaie à Berlin, les Soviétiques barrent toute liaison entre la capitale et l'Allemagne de l'Ouest.
Décidés à briser le blocus, les autorités américaines organisaient le ravitaillement de Berlin par un véritable pont aérien et en 10 000 missions. Les appareils américains réussissaient à apporter 70 000 tonnes de vivres. Les Américains envoient à Berlin les modèles les plus récents d'avions de chasse à réaction venus pour la première fois d'Amérique en Europe. Et pendant qu'à Moscou, les négociations se poursuivent, les Berlinois continuent à recevoir un ravitaillement qui leur tombe du ciel.
Ils n'ont pas les moyens d'insister. Staline va reculer. Il se dégonfle parce que sinon, c'est la guerre atomique. Et la guerre atomique, les Soviétiques sont écrasés, sont écrabouillés. Ils n'ont qu'une chance. Le 1er octobre 1946, une des premières initiatives américaines, c'est-à-dire l'unification économique des deux zones d'occupation britanniques et américaines. Sous un prétexte quelconque, économique, etc., les deux zones d'occupation américaines et anglaises sont réunies. C'est le début de l'Allemagne de l'Ouest. C'est le début de la réunification. Les deux protagonistes américains et soviétiques ne se sont pas entendus sur l'avenir de l'Allemagne. Il y a eu des conférences, Moscou, puis Londres. Impossible de s'entendre sur ce que... Alors les Américains décident de recréer une Allemagne. Ils ont besoin, dans leur stratégie, on va voir qui va être la stratégie de la guerre froide, ils ont besoin d'avoir un allié, d'avoir un appui en Europe occidentale. Et c'est l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne tout court, qui va être la zone d'affrontement avec les Soviétiques. Et les Soviétiques ne peuvent qu'assister impuissants. Ils font des déclarations, ils quittent la table, le général Sokolovski, etc., s'en va de la commission de gestion des zones occupées, etc., mais rien n'y fait. On est dans un processus de réunification des zones occidentales, américaines, anglaises, françaises. Je fais remarquer que les Français, au départ, sont assez peu enclins. De Gaulle, il n'est pas d'accord avec cette reconstitution. Il voit bien ce qui se profile, c'est-à-dire en fait les Américains qui viennent prendre pied en Allemagne et qui vont faire la politique. Il demande des réparations, lui. Et d'ailleurs, la France qui demande des réparations pour les destructions et le pillage de son économie par l'Allemagne n'obtient pas grand-chose, pour ainsi dire rien. Alors que les Américains ont des arguments. Il va y avoir le plan Truman, c'est-à-dire en fait l'arrivée d'une grosse quantité de marchandises et de billets de banque pour remonter les pays en ruine. Les Soviétiques, eux, n'ont pas grand-chose à proposer. Ils relèvent, eux, au contraire, de l'aide Marshall. Mais l'aide Marshall a une condition, nous le savons, c'est-à-dire, bon, bah, faut se plier, bien sûr, aux desiderata américains. Sinon, pas de pognon, pas de blé. Bon. C'est entre la conférence de Moscou, entre le 10 mars et le 25 avril 1947, qui marque la rupture définitive entre les deux grands, en quelque sorte, l'URSS et les Américains. En réalité, la conférence de Londres précipite la coupure entre les deux Allemagnes et l'apparition de la guerre froide. Le 12 mars 1947, c'est la fameuse déclaration de Truman, qui est la déclaration de guerre, le coming out des Américains. Il y a deux camps, il y a ceux qui sont avec nous, c'est le monde libre, et il y a les autres, c'est le monde totalitaire, l'URSS, etc. Et tu choisis ton camp, hein. C'est une guerre déclarée par les Américains, c'est hostilité complète, hein, et sur tous les plans. Ça a été annoncé, on le sait, par le fameux discours de Fulton de Churchill.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Il y a un rideau de fer qui s'est abattu. Effectivement, les Anglais sont au premier rang de l'hostilité idéologique et politique à l'égard de l'URSS, parce que les Anglais ont des intérêts qui sont contradictoires en Iran, en Méditerranée orientale, etc. Voilà. La première guerre de la guerre froide, c'est pas tout à fait l'Allemagne, c'est la Grèce. C'est en Grèce que les Anglais et les Américains vont délibérément écrabouiller la résistance populaire grecque et mettre à la tête du gouvernement grec un gouvernement d'extrême droite. Hein. Parce que dans cette guerre entre le monde libre, entre guillemets, et le monde totalitaire, occidentaux ne vont pas hésiter à soutenir des régimes d'extrême droite. Par exemple, dans cette guerre froide qui s'annonce, les Américains ont besoin de Salazar, c'est-à-dire des Portugais, pour les bases navales des Açores. Donc ils vont soutenir la dictature d'extrême droite. Et ils vont soutenir également Franco. Ils ont peur, après la guerre, les Espagnols, puisqu'ils sont dans le camp des vaincus, même s'ils n'ont pas participé à la guerre, c'est quand même un gouvernement d'extrême droite amené au pouvoir par Hitler. Donc ils ont peur de sauter. Mais non, ils ont une grande qualité, les Espagnols, ils sont anticommunistes, ils les ont tués, massacrés. Donc ils vont être maintenus par les Américains et les Occidentaux.
Cédric ?
Eh oui, les Américains appliquent une bonne vieille devise, il faut mieux une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. On est dans la réelle politique, il faut un gouvernement qui favorise vos intérêts. Et à ce titre, on a pu voir l'organisation de la fuite d'anciens dirigeants du régime nazi, des SS et des savants compromis jusqu'au cou avec le régime nazi qui ont été exfiltrés. Et ceci dès 1945, où vous avez des filières d'organisation de fuite vers l'Amérique latine qui sont organisées par les États-Unis. Et ça, bien sûr, les Soviétiques sont au courant, et ils le savent très bien. Ça sent mauvais pour eux quand vous voyez que Von Braun, il part avec ses plans de missiles V1 et V2 dans son attaché case et qu'il va en faire profiter tout le système militaro-industriel américain.
Bon, il y a unification des trois zones occidentales, américaine, anglaise et française. À partir de ce moment-là, Berlin devient problématique. Elle devient une enclave des pays occidentaux au milieu de la zone soviétique. Bien sûr, ils vont en profiter, ils vont l'utiliser à fond la caisse, jusqu'à la construction du mur. Berlin sert au sabotage de l'économie, au passage des espions, Donc les Américains organisent cette future République fédérale d'Allemagne qui naît en 1949. D'ailleurs, à quelques semaines près, c'est la naissance aussi du traité de l'OTAN, de l'Atlantique Nord. C'est en avril 1949 que naissent en même temps l'Allemagne de l'Ouest, très anticommuniste, avec à sa tête bientôt Konrad Adenauer, qui est du CDU, c'est-à-dire du Parti démocrate chrétien de droite, tout ce qui se faisait de plus à droite, en dehors du nazisme. Donc, naissance de la République fédérale d'Allemagne, qui immédiatement revendique la souveraineté sur la zone d'occupation soviétique. D'ailleurs, au-delà même de la zone d'occupation soviétique, la zone qui a été concédée à la Pologne, au-delà de la ligne Oder-Neisse. Il y a deux fleuves, l'Oder et son affluent, la Neisse, et ça fait frontière entre la Nouvelle-Pologne qui est née et qui récupère une partie donc de la Prusse orientale et l'Allemagne. Le nouveau gouvernement, qui va être traité de revanchard par les communistes, par l'URSS, ce nouveau gouvernement revendique la souveraineté sur la totalité de l'Allemagne, c'est-à-dire en fait la renaissance de l'Allemagne. Donc que peuvent penser les Soviétiques à ce moment-là? C'est que les Américains font renaître une Allemagne puissante, anti-soviétique, un véritable danger contre eux en quelque sorte. Et d'ailleurs, les Soviétiques ne se trompent pas. Ils vont d'ailleurs, avant même la naissance de cette Allemagne de l'Ouest, faire la même chose à l'Est, c'est-à-dire contrôler les régimes politiques des pays d'Europe orientale, de la Pologne jusqu'à la Bulgarie, jusqu'à la Roumanie, etc. Ces États vont devoir rester dans l'orbite soviétique. Il s'agit de quoi pour Staline, pour les Soviétiques? Est-ce qu'il s'agit d'en faire des pays communistes? Ils s'en foutent. C'est pas ça leur problème. Si ces pays avaient été des pays non communistes, mais alliés à l'URSS et pas dans l'Alliance Atlantique, les Soviétiques s'en seraient contentés. Il y a deux pays qui vont devenir neutres, Finlande et Autriche, mais ces autres pays, l'URSS sait pertinemment que si ces pays ne sont plus sous son contrôle, ils vont rentrer dans l'OTAN, c'est-à-dire dans l'Alliance Occidentale avec les Américains, qui est une alliance militaire dirigée contre l'URSS. Donc, que vont-ils faire, les Soviétiques? Ils vont s'arranger de façon très brutale, d'ailleurs, dans certains cas. Ils vont obliger ces pays à rester dans l'orbite soviétique, dans l'Alliance soviétique, c'est-à-dire en faire une sorte de glacis défensif. C'est ça, la guerre froide. Mais cette guerre froide, elle est bien évidemment provoquée par l'agressivité et les initiatives de l'impérialisme américain après la guerre, à partir de Truman. Ils veulent en découdre. Pour eux, l'ennemi, ce sont les Soviétiques. Est-ce que le fait que l'URSS soit un régime politique qui n'est pas la faveur de l'Ouest obligeait l'Ouest à en faire un pays ennemi, alors qu'ils étaient alliés contre l'Allemagne nazie jusqu'en 1945? Il n'y a aucune fatalité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, l'URSS a perdu et l'impérialisme américain a gagné, les Occidentaux ont gagné, que c'était une histoire fatale, une histoire qui était obligée de se passer de cette manière-là. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on voit renaître une Allemagne puissante, assez impériale, assez dominatrice, au centre de l'Europe. Et ça repose un problème, évidemment, c'est qu'on a peut-être fait des conneries à partir de 1945. Bon.
Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle. La liberté de passer pratiquement sans entrave d'un côté à l'autre de l'Allemagne.
La suite de notre dossier réunification allemande, comme on dit, et comme on va le voir avec toi, Philippe, on parle de réunification, mais on pourrait tout aussi bien parler d'annexion, voire d'Anschluss, et pourquoi pas de colonisation. À la une du Monde diplomatique, novembre 2019, il y a 30 ans, la chute du mur de Berlin, avec un dossier donc que le Diplo consacre à cet événement historique. Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion, article signé Rachel Nabel. Alors là, moi, j'ai pas fait allemand.
Knabel.
Ah. Et Pierre Rimbert. Ah non, lui, c'est un français.
Pierre Rimbert écoute l'émission, donc il...
Ah. Mythe fondateur de l'Union européenne, l'année 1989 est pourtant un symbole équivoque. Ainsi, en Allemagne de l'Est, l'accès aux libertés politiques et à la consommation de masse fut payé au prix fort, celui d'un effondrement social et d'une prédation économique souvent ignorée à l'Ouest.
Depuis quelques mois, il y a une discordance entre le grand récit de la réunification, les flonflons, les bons sentiments, et la violence subséquente de cette, entre guillemets, réunification qui apparaît au grand jour. Par exemple, dans le fait que le parti d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland, fait plus de 20% dans plusieurs Länder de l'ancienne RDA. Et 58% des Allemands de l'Est ont le sentiment de n'être pas mieux protégés de l'arbitraire étatique qu'ils ne l'étaient en RDA. Quelque chose cloche dans la belle histoire d'une généreuse RFA offrant à son voisin ruiné par 4 décennies de dictature communiste le Deutsche Mark et la démocratie. Toutefois, dans les semaines qui suivirent la chute du mur, l'écrasante majorité des opposants au régime de la RDA aspirait non pas à l'unification, mais à une RDA démocratique à 71%. 4 novembre 1989, sur l'Alexanderplatz, qui est une grande place de Berlin-Est, il y avait eu une grande manifestation, un pasteur avait dit « Nous autres Allemands avons une responsabilité devant l'histoire, celle de montrer qu'un vrai socialisme est possible. » Et l'écrivaine Christa Wolf, d'Allemagne de l'Est, disait « Nous avons encore la possibilité de développer une alternative socialiste à la RFA. » Elle avait fait une pétition qui avait recueilli 1 200 000 signatures sur quand même 17 millions d'habitants, et les tables rondes des mouvements d'opposition des partis traditionnels pour préserver l'indépendance du pays et rédiger une constitution, elle esquissait les contours d'un socialisme démocratique et écologique, parce que écologique, ça ne l'était pas trop. L'ingérence des dirigeants de Bonn dans le scrutin législatif du 18 mars 1990 limitait au territoire de la RDA, qui ne touchait pas toute l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'était réunifiée que le 4 octobre. Et tel qu'Egon Bahr, ancien ministre SPD, artisan du rapprochement entre les deux Allemagnes, il a parlé de ces élections comme des plus sales qu'il ait observées dans sa vie. Ça s'est fait avec le soutien des États-Unis, la passivité de l'URSS qui était affaiblie, et la RFA d'Helmut Kohl annexe en quelques mois un État souverain, liquide son économie et ses institutions, transplante le capitalisme libéral. Mais les architectes de la réunification s'aviseront un peu tard qu'on ne dissout pas un peuple comme on ferme un combinat. Il n'y a jamais eu de réunification. Plutôt que de faire voter aux deux peuples une nouvelle constitution, conformément à la loi fondamentale de la RFA et aux souhaits des mouvements civiques, Bonn impose l'annexion pure et simple de son voisin en vertu d'une obscure disposition utilisée en 1957 pour rattacher la Sarre à la RFA. La Sarre qui, jusqu'à cette époque-là, était à la France, en dédommagement. Le traité d'unification étend la loi fondamentale à cinq nouveaux länders créés pour l'occasion, effaçant d'un trait de plume un pays dont on ne retiendra plus désormais que l'inflexible dictature policière, le kitsch vestimentaire et la trabante.
Une union monétaire accélérée.
À l'époque, il y avait deux forces inégales. Les Allemands de l'Est désiraient les libertés politiques et la prospérité sans renoncer aux caractéristiques de leur société, notamment aux lois sociales qui favorisaient énormément les femmes et notamment le travail des femmes. Et pour Bonn, la priorité est la liquidation absolue de la RDA. Helmut Kohl a donc proposé le 6 février 1990, c'est-à-dire quelques semaines après la chute du mur, d'étendre à l'Est le Deutschmark de l'Ouest pour arrimer fermement la RDA à l'Ouest au cas où Gorbatchev serait renversé à Moscou. Ce qui n'était pas trop mal vu parce qu'effectivement, il y a eu un complot où Gorbatchev a été effectivement renversé un peu plus tard. Il s'agit surtout de remporter les élections législatives prévues en RDA le 18 mars. Or, les sondages créditent le SPD, fraîchement créé, d'une large avance sur la CDU de l'Est qui participe depuis des décennies au gouvernement de RDA parce qu'il y avait au moins la fiction d'un gouvernement multiparti dont faisait partie en RDA la CDU. Elle était compromise et de ce fait-là, le SPD qui venait juste de s'implanter avait davantage de voix. Or, Kohl voulait faire l'union monétaire immédiatement, sans tenir compte de l'opposition du président de la Bundesbank, avec la promesse d'un échange immédiat au taux de 1 pour 1, alors que c'était 1 marque de l'Ouest valait 4 marques de l'Est. Du coup, la CDU et ses alliés ont fait leur retard. Ils ont eu 48% des suffrages contre 21% pour le SPD, 16% pour le PDS, issu du SED, qui était le parti de Erich Honecker. Ainsi, au moyen du Mark, on a assuré l'annexion rapide de la RDA à la RFA.
Le choix de la démolition sociale.
Avec la monnaie, c'est l'ensemble de l'économie de marché qui se trouve d'un coup transplanté en RDA. Toutes les anciennes lois de la RDA qui contredisaient le nouveau régime capitaliste, elles ont été déclarées abolies. Et dès la mise en œuvre du traité, le 1er juillet 1990, c'est-à-dire avant l'unification, les Allemands de l'Est déchantent. Les consommateurs se tournent frénétiquement vers les marchandises de l'Ouest. Les prix réels des biens et services produits à l'Est bondissent de 300 à 400% et les entreprises perdent d'un coup toute compétitivité. J'ai quelquefois employé la comparaison suivante. Les plongeurs qui plongent des fois à 100-150 mètres de profondeur, on leur conseille de ne pas remonter brusquement parce que l'azote qui est contenu dans l'air qu'ils respirent se mettrait à bouillir et puis ils mourraient d'un seul coup. Donc on leur conseille de remonter par palier. Eh bien, les habitants de RDA, hop, ils sont remontés de 300 mètres de profondeur à la surface d'un seul coup. Et les entreprises perdent toute compétitivité. Elles sont d'ailleurs privées du marché intérieur qui était capté par les groupes occidentaux. Et elles sont privées des clients de l'Est, notamment de l'URSS, qui n'ont de clients que l'Allemagne fédérale, qui absorbe 60 à 80% des exportations est-allemandes. Alors, avant l'Allemagne de l'Est, toutes ces exportations allaient vers les anciens pays du Comecon et l'URSS. Maintenant, c'est fini. Selon le président de la Bundesbank, le pays avale alors un remède de cheval qu'aucune autre économie ne sera en mesure de supporter. Mais convaincus des vertus de la saignée, les négociateurs de Bonn refusent toute contre-mesure de soutien. Par exemple, l'alignement progressif du taux de change, la subvention de la production à l'Est, la surtaxe des prix de l'Est. Pas du tout, rien. En juillet 90, la production industrielle chute de près de 44% par rapport à 89, de 52% en août et de 70% fin 91. Le nombre officiel de chômeurs passe de 7500 en janvier 90 à 1 400 000 en janvier 92, plus du double en comptant les travailleurs au chômage technique, en reconversion ou en pré-retraite. La Treuhand, abrégée de Treuhandanstalt, créée le 1er mars 1990, privatise ou liquide la quasi-totalité du patrimoine du peuple. À sa dissolution, 4 ans après, elle peut s'enorgueillir d'un bilan sans équivalent. La RDA désindustrialisée, 2 500 000 emplois détruits, des pertes évaluées à 256 milliards de marks pour un actif net initial estimé par le propre président de la Treuhand à 600 milliards. Et il y a eu une colonisation structurelle subie par la RDA. Investisseurs, entreprises ouest-allemandes ont racheté 85% des sites de production est-allemands et les Allemands de l'Est 6%. Et cette idée d'une guerre éclair contre l'économie planifiée remonte aux années 50. Ludwig Erhard, deuxième chancelier de l'Allemagne fédérale, plaidait pour une union monétaire rapide, thérapie de choc. En théorie, la Treuhandanstalt devait redistribuer les parts des entreprises d'État à la population. Le syndicat IG Metall proposait d'en transmettre la propriété directement aux salariés. Mais le triomphe de la CDU aux élections est-allemandes a rebattu les cartes. Le 1er juillet, la Volkskammer, c'est-à-dire le Parlement de la RDA qui vivait encore pour quelques semaines, adopte dans l'urgence une loi pour la privatisation et l'organisation du patrimoine du peuple. Bon, il faut dire que la Treuhand n'était pas présidée par n'importe qui. Le premier président de la Treuhand était Rainer Maria Golke, ex-directeur général d'IBM, puis Detlev Karsten Roveder, président de Hoechst, grande entreprise d'Allemagne de l'Ouest. Le président du conseil de surveillance a été Jens Odewald, proche de Kohl, et président de Kaufhof, une énorme chaîne de magasins allemands, un peu comme chez nous, Carrefour ou Leclerc, qui d'ailleurs fit main basse sur les commerces de l'Alexanderplatz. Et dès l'été 90, le ministère des Finances installa auprès de la présidence de la Treuhand un cabinet de cadres de la société de conseil KPMG, McKinsey et Roland Berger, qui évalueront sans critères précis les entreprises vouées au redressement, à la privatisation sans délai ou à la liquidation.
Des entreprises dépecées.
Alors la Treuhand a d'abord agi pour éliminer du marché toute concurrence que pourraient faire des entreprises de l'ex-RDA au groupe ouest-allemand. Par exemple, le 2 octobre, la veille de la réunification, la direction de la Treuhand décide par exemple de fermer l'usine de fabrication d'appareils photographiques Pentacon, à Dresde, qui employait 5700 personnes et exportait son modèle Practica vers de nombreux pays de l'Ouest. C'était un excellent appareil, pas cher, et qui bénéficiait de toute la tradition d'optique et d'appareils photographiques qui s'était développée, bien avant même la guerre de 14, dans la partie Est d'Allemagne, notamment en Saxe. La Treuhand, autre exemple, elle refusait, alors une des rares réussites commerciales de la RDA, la Société nationale de recyclage et de réutilisation des matériaux en réseau d'entreprises municipales, elle a préféré la vente à la découpe au profit de groupes de l'Ouest. Et Interflug, compagnie aérienne de la RDA, largement bénéficiaire, elle a transféré gratuitement les droits d'exploitation de ses lignes et l'usage de son aéroport à son concurrent ouest-allemand Lufthansa. Et à Bischofferode, en Thuringe, la Treuhand a réuni à une seule unité toutes les mines de potasse et les a cédées aux concurrents de l'Ouest, qui s'appelait K plus S, qui a tout fermé. Il fallait montrer que la RDA était finie et qu'il n'y avait en elle rien de valable. Il y a eu des protestations en mars 1991, les 20 000 ouvrières du textile de Chemnitz ont été menacées de licenciement, et les 25 000 travailleurs de la chimie de Saxe-Anhalt, et les 60 000 personnes qui ont manifesté à l'appel d'IG Metall, mais aussi des églises évangéliques et d'anciens opposants qui ne luttaient plus pour la liberté politique, mais contre le libéralisme économique. Et le 30 mars, le bureau de l'agence berlinoise La Troyande a été incendié. Le président Roveder de La Troyande a été assassiné. Il a été remplacé aussitôt par une présidente, Birgit Breuel, membre de la CDU et fanatique des privatisations. La Troyande a attiré les magouilleurs. Il y a eu détournement de subventions dans le cadre de la vente de la raffinerie de Leuna à El Fakitel en 91. Il y a eu des cadres corrompus, il y a eu le siphonnage de centaines de millions de marques accordées à l'entreprise ouest-allemande Bremer Vulcan pour redresser les chantiers navals de Rostock et de Wismar. 15 000 licenciements à la clé. En 98, une commission parlementaire situe le montant de ces détournements entre 3 et 6 milliards de marques, en plus des émoluments somptueux des liquidateurs, plus le coût exorbitant des consultants. À Groß-Dubrau, en Saxe, l'usine de céramique a été liquidée, ce qui était recommandé par le cabinet KPMG, malgré la candidature de repreneurs sérieux.
Zombie mémoriel.
Le ministère des Finances allemand a empêché la consultation des dossiers et des contrats. Et un groupe parlementaire, donc SPD, a dit « Le gouvernement, les Treuhandanstalt, ont abrogé le droit de contrôle parlementaire comme aucun autre gouvernement démocratique légitime n'avait osé le faire depuis 1945 ». La Troyande, c'est un zombie mémoriel qui cristallise toutes les créances pourries de l'unification. Anéantissement industriel, dépeuplement des régions, inégalité, chômage de masse. Et Die Linke réclame une nouvelle commission d'enquête parlementaire qui accéderait aux documents mis au secret depuis 1990. Tous les partis s'y opposent, sauf l'AFD, le parti d'extrême droite et Die Linke. Et pour dépouiller les 45 km de dossiers, il a été mis à la disposition 7 archivistes que les auteurs opposent aux 1400 archivistes qui ont été recrutés pour examiner les papiers de la Stasi. Alors, il y a eu deux bilans d'annexion. Dans les années 90, l'Allemagne a regagné sa position centrale. L'Union européenne a accéléré son intégration politique et monétaire selon les principes d'âge rigueur germanique et fruit tardif du traité d'unification. Le traité de Maastricht coûtera des millions de chômeurs à l'Europe. La réunification allemande a été payée en bonne partie par les Européens, dont nous-mêmes Français.
En France, la réunification nous a coûté 1,5 million de chômeurs selon les observateurs économiques les plus sérieux.
L'autre bilan porte la couleur de la désillusion. En échange des libertés politiques et du développement des infrastructures, la population de la RDA fut jetée dans les flots du capitalisme avec une pierre autour du cou. Les Allemands de l'Est ont été intégrés dans la démocratie et l'économie sociale de marché en même temps qu'ils étaient exclus du travail, ils étaient exclus de la propriété. Naguère industrielle exportatrice, la RDA, aujourd'hui, dépend de la demande intérieure et des aides sociales. Pour le patronat, les transferts publics vers les nouveaux lenders financent des biens et des services produits par des entreprises de l'Ouest qui se métamorphosent en profit. Ce fut le plus grand programme d'enrichissement des Allemands de l'Ouest jamais mis en œuvre. C'est aussi cela que commémore chaque 9 novembre la classe possédante occidentale.
Cédric, l'analyse effectivement de la mise en découpe totale de la RDA, c'est pas sans rappeler en fait les processus de colonisation lorsqu'on envoie un État qui va en coloniser un autre au XIXe siècle, qui arrive avec son système politique, son système aussi économique. Et on voit comment les grandes entreprises sont carrément à l'origine, par exemple dans le système anglais colonial, où c'est carrément des grandes entreprises qui partent coloniser, ou bien dans le système français, où les grandes entreprises suivent l'armée et la colonisation politique, Il y a véritablement une mise en découpe du pays, la prise de contrôle en fait de tout ce qui a de la valeur, subtilisée en fait à la population locale et qui va lui être volée. On est vraiment dans un vol de type colonial, ni plus ni moins. Donc là, sauf que c'est un vol au sein d'une même entité culturelle avec des gens qui parlent la même langue, etc. Mais on a la reproduction en fait de phénomènes qu'on a déjà vus au 19e siècle.
Et on s'étonne qu'il y ait des gens qui soient un peu nostalgiques de l'Allemagne de l'Est. C'est marrant, hein.
On a ouvert le mur à la pelleteuse, on a creusé pour permettre le passage des gens. Ça fait une brèche de 3 mètres à peu près. Et ce qui était extraordinaire ce matin...
Novembre 1989.
C'était de se trouver, comme nous l'avons fait, entre les deux murs, puisque finalement il y avait deux murs qui séparaient Berlin, et au milieu un no man's land, de se trouver là au milieu avec cette foule de gens qui passaient. Et puis on me signale que M. Rostropovitch à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, va jouer.
Suite et fin de cette spéciale réunification allemande. Alors, réunification, on pourrait débattre du terme, Daniel.
Vite terminé par les célébrations émouvantes, la réunification allemande tous les ans et encore plus en ce 30e anniversaire de la chute du mur avec Rostropovitch jouant du violoncelle au pied du mur. Très mal d'ailleurs, mais bon, ça... Ah oui, écoutez l'enregistrement, c'est terrifiant.
Quelqu'un ose le dire, enfin, 30 ans plus tard.
C'est désastreux, mais c'est tout à fait excusable, hein, parce que c'est improvisé comme ça.
Vous ne respectez rien, c'est ignoble.
Il fallait bien que quelqu'un ose dire quand même, 30 ans après, qu'il jouait comme une patate. Bah oui, mais bon, ça aurait été un crime de lèse-démocratie et de liberté retrouvée.
Ceci dit, Rostropovitch est un grand violoncelliste qui jouait très bien. Mais là, dans l'improvisation, l'émotion, le public, c'est inaudible, c'est très mauvais. Il joue faux à tout ce que... Mais il joue tellement bien pour les chœurs de l'Allemagne qui retrouve la liberté, etc. Bon, très bien, voilà. Du coup... Ces célébrations émouvantes, on comprend que l'oligarchie de l'Allemagne de l'Ouest soit très émue. Les coffres-forts aussi doivent être très émus et même un peu remplis. Ce que je comprends moins, c'est qu'on arrive à faire pleurer Margot dans toute l'Union européenne sur l'événement. André a rappelé comment les deux Allemagnes sont le fruit de la guerre froide commençante entre 45 et 49. Philippe a montré dans le détail comment, entre 89 et 1990, une annexion de fait se produit. Elle est rapide, elle est brutale, elle est fondée sur une union monétaire accélérée et coûteuse pour l'Europe, autant que pour l'Allemagne, et en particulier pour les partenaires de l'Allemagne. Ça a coûté effectivement très cher en chômeurs à travers l'Europe. Donc une union monétaire accélérée, coûteuse, le dépeçage d'une économie, la liquidation d'une société et l'effacement d'une mémoire.
Sans parler de l'effacement de l'histoire.
Voilà.
C'est dingue, je pensais qu'ils avaient perdu la guerre en 1945, c'est bizarre.
Oui, finalement en Allemagne, l'histoire peut marcher à l'envers, à l'endroit et continuer. L'histoire marchant à l'envers.
C'est affreux, j'ai eu une vision, j'ai vu un mec qui marchait au pas de loi à l'envers en me disant « Putain, ça doit être vachement dur. »
C'est très dur, il faut toute la discipline allemande pour y arriver. Hein. Donc, l'histoire marche à l'envers. Une annexion ou une unification inversée. Comment se fait-elle cette unification? À partir de l'Ouest, partie capitaliste de l'Allemagne, de la partie rhénane, de la partie industrielle, une absorption de type colonial. Or, ce processus, c'est exactement l'inverse sur le plan géographique de ce qui a présidé à l'unification de l'Allemagne. En 1871, l'unification bismarckienne, c'est la Prusse, c'est Berlin, l'Est de l'Allemagne, qui mène l'unification sous sa direction et à son profit. En 89-90, c'est l'inverse. C'est l'Ouest qui mène une réunification, une annexion, sous sa direction et à son profit. cette réunification ou cette annexion, que s'est-il passé ? Voilà l'État, la RDA, qui était un État garanti par les accords internationaux, et en particulier les accords d'Helsinki. Pourquoi une annexion ? La RDA, République démocratique allemande, est un État indépendant, garanti par les traités internationaux, signés par l'ensemble des États européens, l'Union soviétique et les États-Unis. Excusez du peu. Ce sont les accords d'Helsinki qui sont négociés entre 1973 et 1975. La RDA est un État membre des Nations Unies, qui a son siège aux Nations Unies. Et il est absorbé par une sorte de voie de fait sur la RDA, sans référendum, sans consultation populaire des citoyens de RDA. En 89-90, on a fait des sondages d'opinion sur la population de RDA. Elle souhaitait, à plus des deux tiers, c'était 71% selon l'article du Monde diplomatique, non pas du tout un rattachement à l'Allemagne de l'Ouest, mais un État d'Allemagne de l'Est, démocratisé, libéral, etc. Mais pas du tout, elle n'avait pas du tout l'intention de se faire annexer par l'Allemagne de l'Ouest. Par ailleurs, il s'est déroulé dans l'urgence à ce moment-là des négociations, en particulier à Moscou, entre l'Allemagne de l'Ouest, entre Bonn, la capitale de l'Allemagne de l'Ouest, Londres, Paris et Moscou. Car, bien sûr, l'Union soviétique de Gorbatchev était inquiet, la Grande-Bretagne de Thatcher était inquiète, et Mitterrand aussi. Pour qu'il y ait réunification, il faut qu'il y ait l'accord des anciens vainqueurs. Et Mitterrand demande la reconnaissance de la ligne Oder-Neisse, que l'Allemagne de l'Ouest n'a jamais reconnue avant 89. Il se trouve que j'ai été en Allemagne de l'Ouest, ça devait être dans les années 80, et les bulletins météo des chaînes de télévision de l'Allemagne de l'Ouest donnaient les informations météorologiques des anciennes villes allemandes qui étaient en Pologne. Tu vois le message, hein ? Alors, Kohl s'engage à ne pas revendiquer les territoires perdus et récupérés par la Pologne après 1945. Thatcher est encore plus méfiante que Mitterrand. Elle demande à l'Allemagne de s'engager de ne faire aucune annexion, même avec vote des populations concernées, au-delà des frontières existantes de l'Allemagne. Il voit bien le problème. Autrement dit, éviter un Anschluss. Et Gorbatchev demande l'engagement de qu'il n'y ait pas d'extension de l'OTAN au-delà. Sauf l'histoire de la frontière Oder-Neisse, mais les autres conditions étaient plus ou moins contournées. Et, au fond, elle est fondée sur une non-consultation directe de la population allemande et sur un marché de dupes par rapport aux États européens. Et, effectivement, ça peut faire penser à des précédents historiques. Je me suis dit, mais on assiste à un Anschluss bis.
Tu sais pas le dire, hein, c'est marrant. Hein. T'as pas fait allemand, toi ?
Non, j'ai pas fait allemand.
Anschluss.
On assiste à une annexion comme en 1938 pour l'Autriche. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes qui ont trouvé des raisons de ne pas s'opposer à ce qui s'est passé en 1938 trouvent des raisons de se réjouir à ce qui se passe en 1989-90. L'histoire à l'envers, l'unification ou la réunification s'inverse sur le plan géographique. Mais l'histoire continue à l'endroit. La continuité est une sorte de vocation autoproclamée d'une Allemagne qui se considère comme naturellement dominante sur le continent européen. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Le pan-germanisme du 19e siècle, de l'époque bismarckienne, qui développe tout à fait cette thèse. L'Allemagne réunifiée est comme naturellement la puissance principale, dominante, sur l'Europe centrale, Mittel, Europea. On a ça dès les années 1870, 80, 90. Pendant la Première Guerre mondiale, Ludendorff, l'adjoint du commandant en chef Hindenburg de l'état-major allemand, dans la période où l'Allemagne victorieuse occupe la Pologne, se lance dans un système de l'Ostreich, le Reich de l'Est, où il établit pendant 2 ans, et il en est directement et le théoricien et l'administrateur, d'un système où l'Allemagne dominante s'installe en Pologne, met en position infériorisée les Polonais, sous direction allemande, où il établit le système du pan-germanisme, c'est-à-dire l'administration et les entreprises industrielles allemandes s'implantent, les Polonais soit sont une main-d'œuvre industrielle, soit restent à la campagne, mais surtout, ils doivent être soumis. Hitler, avec l'espace vital, il n'a rien inventé, il n'a d'ailleurs jamais rien inventé, Adolf. Il est sur la même théorie, il pousse la politique au maximum, jusqu'au crime, sans mesure. L'espace vital, c'est ça. Eh bien, finalement, qu'est-ce que l'on voit avec l'extension de l'influence allemande après 89-90 dans les Balkans et à l'Est? Vous voyez la reconstitution de l'espace pan-germanique ou de l'espace vital, aussi bien dans les Balkans qu'à l'Est. Dans les Balkans, 91-92, l'éclatement de la Yougoslavie. Immédiatement, l'Allemagne réunifie qui a un an et demi d'existence. Reconnaît illico la Slovénie, illico la Croatie. Et elle assiste à l'indépendance de la Bosnie dans la guerre. Et l'ancienne monnaie yougoslave a disparu. Hein, c'est en train d'éclatement. Savez-vous qu'aujourd'hui, la Bosnie est le seul État du monde à avoir pour monnaie, quelle monnaie? Le mark. Le mark convertible. Parce que, évidemment, entre-temps, l'Allemagne a abandonné son mark pour l'euro. Si bien que le seul État du monde à avoir le mark convertible comme monnaie. Alors, le mark de la Bosnie est géré par quelle banque? Devinez.
À Dakar?
Non, pas à Dakar. La Bundesbank. Eh bien, évidemment. Et il y a encore quelques semaines, la chancelière allemande pousse toujours dans la même idée. Il faut intégrer, justement, la Bosnie, l'Albanie, la Macédoine, etc. Il continue la poussée vers les Balkans. Bon, par ailleurs, l'espace vital, ou ce qu'on appelle maintenant, c'est l'Interland. On est passé de la Mitteleuropa, du pan-germanisme, de l'espace vital, à quelque chose de plus propre. Mais, contrairement à ce qu'on appelle l'Interland allemande, l'arrière-pays de l'Allemagne, eh bien, ce sont les anciennes démocraties populaires soviétiques. Il y a une autre différence. Dans la vision pan-germaniste ou nazie, les populations slaves étaient des populations de seconde zone qui devaient être principalement reléguées dans les travaux agricoles. Mais ils peuvent servir de main-d'œuvre à bon marché pour les usines allemandes. Non pas intégrées dans un protectorat, mais dans des petites républiques bananières d'Europe centrale. On est allé de l'unification allemande menée par l'Est en direction de l'Ouest. On a inversé, c'est l'Ouest qui a fait la réunification allemande à son profit en direction de l'Est. Mais la continuité, c'est la domination sur l'Europe centrale et sur l'Europe en général. Et l'histoire continue. Comment il s'appelle le type qui a passé son instant de gloire sur la fin de l'histoire?
C'est pas Fukushima.
C'est Fukuyama, voilà. Eh bien non, l'histoire continue avec une Union européenne déséquilibrée dès le départ et une Allemagne dominante, pour ne pas dire dominatrice. C'est une Union européenne allemande.
C'est bien dominatrice.
L'instrument de la domination, c'est l'euro. Elle a une doctrine. C'est le libéralisme, ou plus exactement, l'ordolibéralisme allemand. 92, elle participe à l'éclatement de la Yougoslavie et se trouve des petites républiques bananières. 99, le bombardement de la Serbie sous couvert de l'OTAN est initié par l'Allemagne réunifiée à travers le fameux plan fer à cheval, qui est un faux, a montré comment le régime serbe, qui n'était pas terrible ça, hein, mais a justifié, a légitimé le bombardement de la Serbie. On est en 99. 2014, c'est l'Ukraine. L'Union européenne, sous la direction allemande, on retrouve là toujours l'Allemagne de Bismarck comme l'Allemagne de Hitler. Il faut que l'Ukraine soit dans notre giron, soit directement, pas une annexion, mais sous notre influence. L'Union européenne fait une sorte d'accord avec Kiev sur une sorte de traité de libre-échange, mais qui inclut l'allocation des ports ukrainiens à la Russie sur la mer Noire. C'est ce qui provoque la réaction de la Russie. En 2014. 2015, la Grèce, mise à genoux par l'Allemagne dominante. La Grèce vendue à la découpe, comme l'Allemagne de l'Est. Les plages, les hôtels, les routes, les autoroutes, les aéroports. Alors, pas que aux Allemands, mais principalement, les autoroutes, les aéroports passent à l'Allemagne. Alors, le port du Pirée passe à la Chine et d'autres ponts de la Grèce passent aux monarchies du Golfe. Mais pareil, elle a connu exactement le même sort que l'Allemagne de l'Est.
À cet égard, d'ailleurs, on vous conseille d'aller voir le dernier film de Costa Gavras, Adults in the Room, qui raconte ça très très bien.
Mais allez voir le film. Hein, 92, 99, 2014, l'Ukraine, 2015, la Grèce, et le dernier épisode, 2016, le Brexit. Vous voyez la continuité, l'histoire continue. Car si nous avons une mentalité de collabo, la Grande-Bretagne résiste à Berlin. Et elle a résisté en 1939 et elle résiste en 2016.
Tu aurais tendance à souscrire à ce que disait Boris Johnson. Oui. L'Allemagne d'aujourd'hui et l'Europe, l'Union européenne, réalisent le programme d'Hitler avec d'autres moyens que les panzers, en quelque sorte.
Vous êtes une bande de mauvais esprits. Quand vous voyez les murs de la honte qui s'écroulent, tout ça, ça vous réjouit même pas. En plus, vous détestez le violoncelle, même mal joué. Je pense qu'il faut terminer ici cette émission, que vous pouvez réécouter sur notre site polemixetlavoixoff.com. Salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au Labo des Savoirs et bienvenue aux Utopiales, le festival le plus génial du multivers où la SF est tout.